Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
On a prouvé avec les experts qu'Adama Traoré était bien mort asphyxié du plaquage ventral. Les gendarmes ne sont toujours pas mis en examen. La France est un système répressif et autoritaire où la violence policière est impunie.
30 minutes d'info choisie
chaque vendredi sur Radio Galère 88.4.
Le monde tel qu'on le connaissait s'écroule. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle.
Une organisation comme le collectif contre l'islamophobie en France qui obtient des décisions de justice, c'est extrêmement choquant que le ministre de l'Intérieur considère celle-ci comme une, si je le cite, ennemie de la République. On y voit là un opportunisme et un autoritarisme exacerbé de la part du ministre de l'Intérieur.
Bonjour, nous sommes le vendredi 24 septembre 2021, il est 12h30 et les infos choisies fêtent aujourd'hui la Sainte Nullipare. Une personne nullipare est une personne qui, ayant eu ou pas le désir d'avoir des enfants, n'en a jamais eu. C'est donc aujourd'hui sa fête que l'on va célébrer avec Donna Haraway et Petra Pied-de-Biche. Puis on ira voir du côté des familles alternatives avec La Cité des Hommes, un podcast de Seham Boutata. On commence les célébrations avec une mise en voix d'extrait d'un texte de Donna Haraway, « Faire des parents ».
Bien que toujours prête à crier « cyborg pour la survie terrestre », « cours vite, mords fort » et « tais-toi et entraîne-toi », je propose « Faites des parents, pas des bébés ». « Make kin, not babies ». Faire des parents, des proches, « kin » en anglais, est peut-être la partie la plus difficile et la plus urgente. Les féministes de notre temps ont été des leaders dans le décryptage de la supposée nécessité naturelle des liens entre le sexe et le genre, la race et le sexe, la race et la nation, la classe et la race, le sexe et la morphologie, le sexe et la reproduction et la composition des individus. S'il doit y avoir une éco-justice multispécifique, capable également d'englober diverses personnes humaines, il est grand temps pour les féministes d'exercer un leadership dans l'imagination, la théorie et l'action, afin de démêler les liens de la généalogie avec la parenté, kin en anglais, et de la parenté avec les espèces. Mon but est que parent signifie autre chose, plus que des entités liées par l'ascendance ou la généalogie. Faire parenté et faire des personnes. Pas nécessairement en tant qu'individu ou en tant qu'humain. Faire des parents et faire un type, comme catégorie, soins, parents sans lien de naissance, parents latéraux et beaucoup d'autres échos encore, étire l'imagination et peut changer notre vision des choses. Je pense que l'élargissement et la recomposition de la parenté est autorisée par le fait que tous les terriens sont parents proches, dans le sens le plus profond. Et il est grand temps de pratiquer de meilleurs soins au genre par assemblage, car une espèce n'est jamais seule. Parenté est une sorte de mot qui engage une notion d'assemblage. Toutes les créatures et autres bestioles partagent une chair commune, latéralement, sémiotiquement et généalogiquement. Les ancêtres se révèlent être des étrangers très intéressants, et les proches des êtres non familiers. Éloignés de ce que nous pensions être la famille ou les personnes humaines, étrangement inquiétants, qui nous hantent et agissent toujours en nous. Tout cela est trop pour un slogan minuscule, je le sais. Pourtant, essayez. D'ici 200 ans peut-être, les peuples humains de cette planète pourront n'être à nouveau que 2 ou 3 milliards environ et participer, en tant que moyen et pas seulement en tant que fin, à l'amélioration du bien-être de différents êtres humains ainsi que d'autres créatures. Alors, faites des parents, pas des bébés. Comment les proches génèrent de la parenté, c'est cela qui importe. Nous devons trouver des façons de célébrer les taux de natalité faibles et les décisions intimes personnelle, pour faire des vies florissantes et généreuses, sans faire plus de bébés. De façon urgente, mais pas seulement, pour les régions, nations, communautés, familles et classes sociales riches, fortement consommatrices et exportatrices de misère. Nous devons encourager la population et d'autres politiques qui s'attaquent aux effrayantes questions démographiques par la prolifération de parentés autres que natales. Ceci incluant l'immigration non raciste, les politiques de soutien social et environnemental pour les nouveaux arrivants, de même que pour les « natifs », entre guillemets. Je ne remets pas en cause le droit personnel et inaliénable à enfanter. Contraindre ne marche à aucun niveau imaginable en la matière et tend à se retourner dans tous les cas, même si l'on est apte à tolérer une loi coercitive ou une coutume. Je ne le peux pas. D'un autre côté, et si la nouvelle norme devait devenir l'attente culturelle que chaque nouvel enfant ait au moins 3 parents au long de sa vie, des parents pas nécessairement amants, et qu'ils ne donneraient pas naissance à de nouveaux bébés après ça, bien qu'ils puissent vivre dans des ménages multi-enfants et multigénérationnels ? Et si de véritables pratiques d'adoption pour et par les personnes âgées devenaient courantes ? Et si les gens partout recherchaient des alternatives non natalistes dans la parenté ? Qu'innovation ! Dans les mondes queer, décoloniaux et indigènes, au lieu que les individus et les collectifs ne trouvent leur modèle que dans les secteurs européens, euro-américains, chinois et indiens riches et extracteurs de richesses. La politique nataliste, puissante sous toutes ses formes, devrait être remise en cause presque partout. Je garde le « presque » comme un rappel relatif aux conséquences des génocides et des déplacements de population, un scandale toujours actuel. Le « presque » nous incite aussi à nous rappeler les stérilisations abusives, les moyens de contraception inappropriés et inutilisables, la réduction des femmes et des hommes à du chiffre dans les anciennes et nouvelles politiques de contrôle de la population, et d'autres pratiques misogynes, patriarcales et ethnicistes, racistes, intégrées dans le « business as usual » du monde entier. Merci Petra Piedbiche pour ce beau bébé musical qui nous donne l'agnac en cette journée de Sainte Nulle Part.
Les infos choisies vendredi
les
midi
30. Les infos choisies vendredi
les
midi
30. Les infos choisies vendredi midi 30.
Et la chose qui compterait le plus ne serait plus d'accumuler le maximum de likes pour le jour du jugement dernier, mais de commencer à ressentir que nous sommes en position de force.
30 minutes d'infos choisies
chaque vendredi.
On va dévier un petit peu et aller explorer des modes de famille alternatives avec la belle et grande famille communautaire de la vie en cité, avec le premier épisode d'un podcast de Seham Boutata, La Cité des Hommes.
Moi, comme c'était ma cité, je l'aimais trop. Je la trouvais super belle. Je la comparais à d'autres cités, elle était trop belle. C'était une beauté comparée à d'autres cités, ça, faut pas mentir. Plus belle que Pagani, les cités plus belles que Pagani, c'est les cités qui ont été créées en 2004. C'est les cités qui sont sorties sous terre au 21e siècle. Et franchement, il n'y a pas plus beau.
Ma cité s'appelait Paganini. Mais pour nous, c'était Paga. Une cité de l'Est parisien. Une cité populaire du 20e arrondissement, sortie de terre au milieu des années 80. 20 bâtiments, 600 logements, 2000 habitants, un parc, une école, un cabinet médical, un magasin alimentaire, un coiffeur et deux restaurants. Je suis arrivée à Paga à 6 ans, en 85. J'en suis partie à 22 ans, en 2001. 15 ans dans l'appartement 73, 7e étage, bâtiment 7 des immeubles roses. Vivre à Paga, dans ces années-là, selon qu'on soit une fille ou un garçon, c'est pas la même chose. À l'extérieur, ce territoire semble exclusivement masculin. Les garçons qui y habitent sont aussi les gardiens de la cité. Leur cité, ils la connaissent dans ses moindres détails. Des halls au parking, des toits aux caves. Ils l'occupent, ils la squattent, ils la défendent, ils se battent pour elle, ils la malmènent, mais surtout, ils l'aiment profondément. C'est cette histoire que racontent Cédric, Charlin, Samir, Robinson, Franck, Madala, Mohamed, Giscard, Tariq, Rodney, Silvio, Guillaume et Cassim. Pendant 9 épisodes, ils évoquent l'arrivée, l'amitié, la mixité, la délinquance, mais aussi la guerre des clans, la chariance, les filles, le démantèlement et, pour finir, l'héritage de cette expérience commune. Il y a 35 ans, ils étaient des enfants, les premiers habitants de Paganini. La Cité des Hommes, une série documentaire de Seham Boutata, réalisée par Samuel Hirsch, pour le podcast À suivre sur Arte Radio. Épisode 1, l'arrivée.
Je suis arrivé dans la cité en 1984. Alors, il y avait une partie qui était en chantier, puisque quand je suis arrivé, le petit parc de derrière la cité n'était pas encore construit. Et je pense qu'il y a eu encore quelques petits chantiers au fond de la cité qui étaient en train de se finaliser. C'était grand, mais en même temps pas trop grand, je trouve, quand je compare aux gros blocs que je connais. C'était deux gros blocs de bâtiments, du moins, qui permettaient d'avoir une allée centrale où les gens circulaient, et les enfants, en tout cas, jouaient. C'est des mémoires que j'en ai. Et du coup, on avait la sensation d'être chez nous, puisque c'était vraiment notre petite forteresse, en fait. Voilà, c'était notre petite forteresse. C'est comme ça que je pourrais le définir.
C'était aussi un peu comme Wisteria Allen, tu vois. Je sais pas si tu vois Desperate Housewives, tout ça. Tu vois, ils vivent dans une sorte de rue où les maisons sont les unes en face de l'autre, et il y a une grande allée. Et ben nous, c'était un peu ça. Les immeubles étaient les uns en face des autres, il y avait une grande allée, il y avait un peu d'herbe à l'époque. C'était une cité ouverte. D'un côté, je me souviens qu'il y avait les rails, qui sont toujours là d'ailleurs, et de l'autre côté, t'as le boulevard. Mais qu'à l'époque, en tout cas, quand t'étais dans la cité, tu pouvais oublier qu'il y avait un boulevard à côté. La vie se faisait vraiment dans la cité, quoi. Dans ma tête, en tout cas, on était comme une grande famille communautaire, pas comme des hippies, parce que... Voilà. On avait un AZ, c'était le magasin alimentaire qui était juste collé à la cité. Et même un restaurant chinois, les cuisines donnaient dans la cité et nous, on venait acheter notre bouffe. Et il y avait un restaurant italien, il y avait le médecin qui était à côté, il y avait vraiment tout. Donc en soi, on pouvait vivre dans la cité sans même avoir à sortir de la cité. Ouais, un petit village, quoi.
C'est une résidence avec une voie piétonne, Et puis voilà, des rangées de bâtiments. C'est vrai que l'architecture avait vraiment été pensée dans ce mode un petit peu résidence, un peu cocon, avec une place, la place du Général TC des Marguerites en tête, et au bout de la rue Patrice de la Tour du Pin, une autre petite placette. Donc voilà, c'était vraiment pensé comme ça. C'était pas comme on pourrait le penser. On avait peut-être, nous, une image un peu fantasmée en disant cité, mais avec le recul, quand on regarde, pour moi, c'était une résidence.
Et elle était... entre la porte de Montreuil et la porte de Vincennes, à la périphérie, sans l'aide, quoi. On avait la chance d'être dans Paris, d'avoir le métro à 2 minutes et puis de pouvoir changer d'air en un coup de métro ou de bus, quoi. C'était pas les grands ensembles de banlieue dont on parle, c'était pas la Grande Borne à Grigny ou des trucs comme ça, tu vois. C'était pas des grands bâtiments moches, c'était plutôt coloré. Les bâtiments étaient pas trop hauts, donc c'était... à taille humaine, pour une cité HLM. C'était arboré, il y avait plein de plantes, des fleurs, voilà. Alors moi, par rapport à la cité, c'était un peu particulier, parce qu'elle était, on va dire qu'il y avait comme des subdivisions, il y avait des immeubles de couleurs. D'ailleurs, entre nous, on se repérait comme ça et on les désignait de la sorte. Il y avait, moi, j'étais dans les immeubles bleus. Donc, qui était vraiment au fond de la cité, qui était un ensemble un peu à part.
Il faut imaginer qu'en 85... Les immeubles étaient flambant neufs. On avait un petit deux pièces dans le 13e avec ma mère et mon petit frère, dans de l'ancien. Pas d'ascenseur, pas de baignoire, pas d'insonorisation. Et là, on arrivait dans un truc où il y avait des murs épais, un ascenseur qui montait super vite. Je me rappelle qu'il me faisait presque un peu un petit haut-le-cœur quand on montait. J'habitais au 9e, mais ça m'a toujours surpris, ça. On avait du double vitrage, on avait une gardienne. On avait un 4 pièces, une baignoire et 2 douches, un vide-ordure et tout. C'était... Maintenant, ça peut paraître quelque chose de normal. Mais pour moi, à l'époque, je suis arrivé dans un château. Et ça sentait bon, c'était propre, il n'y avait pas de... On était vraiment heureux, en fait.
J'étais content parce que j'étais dans un appartement qui était neuf, parce qu'on était les premiers habitants de cette cité. Voilà, j'habitais avec ma mère et ma sœur, à l'époque, dans un 3 pièces, donc je crois 63 mètres carrés. On avait 2 chambres, c'était un grand 3 pièces. Mais du coup, une fois de plus, comme tout était neuf, c'était assez confortable. On habitait au rez-de-chaussée. J'étais à 1 minute chrono de mon école. C'est-à-dire, je sortais de chez moi, je traversais et j'étais dans l'école qui était vraiment collée quasiment à mon immeuble. Donc c'était aussi un confort supplémentaire et je pense aussi qu'il rassurait ma mère qu'on n'ait pas allé traverser les rues, etc. Quoi.
Et on sentait qu'on était les premiers. C'est comme quand on a un jouet ou une nouvelle voiture. Il y avait ce côté un peu excitant de découvrir. L'école était toute neuve, le parc à côté qui était tout neuf aussi. Donc il y avait ce côté de découverte qui était sympa. Plein de gens arrivaient d'endroits différents et on commençait à peupler un endroit de vie, quoi.
Moi, je suis arrivé d'Haïti pratiquement. J'ai fait Haïti à la cité. Quand je suis arrivé à la cité, il n'y avait pas de béton au sol. Je pense qu'on est tous arrivés au même moment. Et c'est pour ça qu'on a ce lien. Parce que quand tu déménages, la plupart du temps, tu déménages, mais tu arrives dans un endroit déjà habité. Ça veut dire qu'il y a déjà une certaine relation. Il y a déjà des amis qui se sont formés. Il y a des groupes qui se sont formés. Quand nous, on est arrivés, personne ne se connaissait. Donc je pense que le lien vient aussi de là. On n'était que des enfants, on avait tous le même âge, avec le même état d'esprit, tous des immigrés. Pour moi, on était tous français. On avait des couleurs différentes, mais par contre, on était tous pareils.
Avant, c'était pas une cité, proprement dit. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été vendu comme ça. Et au début, c'était même une espèce de petit village assez, assez sympa. Et je crois qu'en l'espace de 3, 4, 5 ans, donc dès que je suis arrivé à l'âge de 8, 10 ans, on commençait à avoir ce qu'on peut appeler une cité. Avec bon, des personnes de différentes origines, c'est pas le souci, au contraire même. Mais le truc où il y avait un niveau social qui était relativement bas, moi limite je faisais partie des bourges de la cité, au début en tout cas. Parce que je me rappelle, mon père m'avait acheté une espèce de petite moto électrique quand j'avais 5 ans et les autres devenaient fous. Alors on la descendait tout le temps et puis on faisait des tours avec ça. Et je voyais qu'il y avait un petit décalage entre ce que moi je connaissais à la maison et puisque ce que les autres avaient à la maison. Je me rappelle d'une espèce de grande cour de récréation où tous les enfants étaient ensemble, jouaient ensemble, par tranche d'âge. Donc il y avait des groupes d'enfants. Aucun risque de se faire écraser, c'est sûr, puisqu'il n'y a pas de voiture, enfin, il y avait des vélos, mais c'était nos vélos, hein, donc c'était pas, il n'y avait pas de circulation. On se sentait même presque dans un enclos protégé, quoi. C'était vraiment un truc comme ça, et où tu te sentais à l'aise, et t'étais vraiment qu'avec des gens que tu voyais tous les jours, donc une espèce de grande famille. Donc moi, je me rappelle de ça, c'était assez... C'était bien fait, la cité était très bien faite, contrairement à d'autres cités que j'ai pu voir, elle était super bien faite.
Alors, quand on est arrivé, elle n'avait pas de nom. Entre nous, on n'avait pas de nom pour la désigner. Donc, par la suite, ils ont donné des noms de rue, mais ça, c'est arrivé quand même assez tard, peut-être 1-2 ans après mon arrivée en 85. Mais donc, ça s'est appelé la rue Patrice de la Tour du Pin. Donc, nous, on n'avait pas envie de dire qu'on habitait dans la cité de la rue Patrice de la Tour du Pin, tu vois, ça, c'est un peu long. Et bien plus tard encore... Alors que le bus, qui était le PC, la petite ceinture qui fait tout le tour de Paris, qui existe encore aujourd'hui, même s'il est remplacé par le tramway, ne s'arrêtait pas devant nous. Il y avait un arrêt à Porte de Montreuil et un arrêt à Porte de Vincennes. Donc il fallait marcher jusqu'à l'une ou l'autre des deux portes. Et donc, à un moment, ils se sont décidés à mettre un arrêt de bus à cet endroit-là, qu'ils ont appelé Paganini. C'est la rue d'en face où il y a le centre des impôts de l'Est de Paris. Et donc, c'est venu un peu tout seul d'appeler ça Paganini, quoi. Mais au début, c'était la cité, quoi. Quand on discute entre nous, c'est la cité.
Si on reprend l'histoire, les grands des grands, c'était pas Paganini. C'était 47 TSM.
Ça, c'était le nom de bande qu'on s'était inventé avec ceux de ma génération. C'était la mode du tag. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer ce que c'était à la fin des années 80 et début des années 90, mais c'était un phénomène massif. C'est-à-dire, tout le monde taguait partout. Et Paris était recouvert de graffiti. La plupart du temps, les noms de bande, c'était en trois lettres. Et donc, nous, on s'était trouvé ça.
Et le 47 TSM pour tout simplement mortel. Il faut savoir qu'il y avait TSN, c'est tout simplement noir. Et le mec de TSN, qui était une grosse carrière de l'époque, et qui faisait des tas-aspects, sous tous les aspects, ce sont tous des tas-aspects. Ou le nique la police, non, rien de rien, qui met Cut Killer dans la haine, bah ça, c'est aussi TSN. Et lui, c'était genre la carrière de Paul Valéry.
Et ça voulait dire tout simplement mortel. Et on avait à coller le 47 devant, parce que c'était le numéro du boulevard. Puisque la cité était située sur le boulevard Davout, et donc c'était le numéro 47.
Cité, ça a ce côté fermé aussi, ça a ce côté, quand on est dans une cité, on est dans un endroit clos. C'est un endroit, mais ça vit. C'est quelque chose qui protège, mais c'est en même temps quelque chose dans lequel on est exposé. C'est d'un côté, c'est la jungle, mais d'un côté, c'est le refuge. Il y a un peu tout ça, quoi. De nous-mêmes, on se fermait du monde extérieur. On sortait rarement de la cité. Les moments où on sortait ensemble, quand on prenait le métro, c'était toujours des expéditions, c'était loin, quoi. Et quand on sortait ensemble, on devait être les caricatures de petits jeunes de cité qui sortaient, qui ne savaient pas se tenir, parce qu'ils voyaient plein de trucs de nouveau, les gens vivre normalement dans Paris... qui ne ressemblaient pas et à qui on ne ressemblait pas. Mais pour nous, c'était des gens comme à la télévision. C'était des mi-deux qui ne se mélangent pas, finalement.
Vous pouvez retrouver ce podcast et les 8 épisodes suivants sur arteradio.com, La Cité des Hommes de Seham Boutata. Pour finir, dans l'agenda de cette semaine, j'attire votre attention sur une projection qui aura lieu ce mercredi 29 septembre. C'est la projection d'un documentaire « Frauen bildet Banden, les femmes forment des gangs » sur l'histoire des Rotesora. Les Rotesora étaient un groupe de femmes militant en République fédérale allemande, RFA, dans les années 70 et 80, qui s'est organisé clandestinement. Ce groupe féministe a émergé du contexte des cellules révolutionnaires et leurs activités étaient dirigées contre la violence quotidienne à l'égard des femmes, contre les technologies génétiques et reproductives, la politique démographique et l'exploitation au niveau mondial en tant qu'expression de la domination patriarcale. L'autodétermination des femmes lesbiennes et la rupture avec leur nature pacifique présumée ont été au centre de leurs préoccupations. Cette projection aura lieu donc mercredi 29 septembre à 17h30 au Vidéodrome 2 sur le cours Julien et une rencontre avec Maria Baumeister, une des co-réalisatrices du collectif Las Otras, est prévue après la projection. Vous trouverez plus d'infos sur cette projection sur le site du Vidéodrome 2 ou sur 360 et même plus.org. À bientôt.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.
Les infos choisies, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez-nous sur radiogalère.org.